Qui vous a appris à écrire le français si correctement?
La grammaire.
Donnez-nous un exemple de votre choix grammatical.
Eh bien, c'est ça. C'est la première phrase du premier livre que j'ai écrit, qui est à peu près ça. Weidmann vous a paru dans une édition de 5 heures, etc. Le correcteur, le prof, je crois, d'imprimerie, m'a demandé de corriger en remplaçant vous par nous. C'est Weidmann nous a paru, n'est-ce pas, m'a-t-il dit. Et j'ai tenu à ce qu'on conserve. Weidmann vous a paru, parce que je marquais déjà la différence entre vous à qui je parle et le moi qui vous parle. Je prenais mes distances, mais en respectant les règles. Vos règles. Il fallait d'abord séduire ceux dont vous parlez, ceux à qui vous appartenez. Sans doute l'intelligentsia française. Ayant à dire des choses si singulières, si particulières, je ne pouvais les dire que dans un langage connu, de la classe dominante, celle que j'appellerais tortionnaire, celle que j'appelle mes tortionnaires. Il fallait qu'ils m'entendent. Et pour qu'ils m'entendent, il fallait les agresser dans leur langue. Les agresser immédiatement en argot, ils ne m'auraient pas écouté. Ce que j'avais à dire, le dire dans une langue étrangère, qu'aurait été l'argot, seul un bourgeois pouvait le faire. Je ne pouvais pas le faire. Il fallait un docteur, médecin des pauvres, Bartamu, qui ose écrire l'argot. Et il a pu changer son français bien correct de sa première thèse de médecine en un argot avec des trois points, etc. Le détenu que j'étais ne pouvait pas faire ça. Il fallait que je m'adresse dans la langue, justement, du tortionnaire. Que cette langue ait été plus ou moins émaillé de mots d'argot n'enlève rien, ou je suppose n'enlève pas grand chose en effet à sa syntaxe. Si j'ai été séduit, parce que je l'ai été, par la langue, c'est pas à l'école, c'est vers l'âge de 15 ans et à mes traits, quand on m'a donné, probablement par hasard, les sonnettes Ronsard. Et, en effet, j'ai été ébloui. Et il fallait être entendu de Ronsard. D'abord. Puisqu'il est une des premières émotions que j'ai eues à la fois de la langue française et de la poésie, c'est assez naturel que je lui réserve une sorte de fidélité, en tout cas. Il n'aurait pas supporté, Ronsard n'aurait pas supporté l'argot. Mais il y a autre chose aussi c'est que la langue française est fixe. Elle a été fixée au 17e, à peu près. L'argot est en évolution, l'argot est mobile. L'argot utilisé par Céline est, se démode. Il est déjà, il est presque... on le comprend uniquement dans le voyage au bout de la nuit, parce que le voyage au bout de la nuit, finalement, conserve une rhétorique admise par la bourgeoisie. Mais après, les livres qui viennent après, je les connais mal, mais enfin, j'ai l'impression qu'il plonge carrément dans l'argot et qu'il devient, il sera dans quelque temps illisible.
Et si un tortionnaire vous dit qu'il a été changé par la lecture de Jean Genet ?
Les vrais tortionnaires, en réalité, ne me lisent pas. Je ne pense pas qu'un homme puisse être transformé par ce que j'ai écrit. Il peut détester ce que j'ai écrit ou adhérer à ce que j'ai écrit. D'ailleurs, un tortionnaire n'est pas complètement un tortionnaire. Chaque homme fait de tout sa peinture. Et il n'est pas transformé par la lecture d'un livre, la vue d'un tableau ou par une musique. Il transforme au fur et à mesure tout ça. Et il en fait quelque chose qui lui convient.
Mais regardez comme Sartre a été modifié par vous. L'avez-vous été vous-même modifié par ce que Sartre a écrit sur vous ?
Eh bien, je n'ai jamais lu complètement ce qu'il avait écrit. Ça m'ennuyait.
Avez-vous éprouvé profondément une jubilation en écrivant, ou de la souffrance, de la difficulté ?
Une seule fois. Une seule fois.
Et en écrivant quoi ?
Les paravents. Le reste m'a beaucoup ennuyé. Mais il fallait l'écrire pour sortir de prison. Si vous voulez, il me semble que, puisque tous mes livres ont été écrits en prison, je les ai écrits pour sortir de prison. Sorti de prison, l'écriture n'avait plus de raison d'être. En effet, c'est mes livres qui m'ont fait sortir de tôle. Mais après, quoi dire ?
Y a-t-il une part de vous qui est encore en prison ?
Non, une part de moi reste davantage dans les pays épuisés par les Français, comme le Maroc, avec ses 9 millions de pauvres absolus, comme le Mali, comme d'autres pays, qu'en prison.
J'aimerais savoir l'effet que ça vous fait d'apprendre qu'on ne coupera plus les têtes en France.
La suppression de la peine de mort me laisse complètement indifférent. Je ne tiens pas du tout à ce qu'on mette des garantoles. Je dis que c'est une affaire entre eux et les juges, les gouvernants, etc. Mais pas entre eux et moi. Les règlements de compte entre ce qu'on appelle les voyous et les juges, pour moi, c'est sans intérêt. La suppression de la peine de mort, c'est une décision politique. La politique française, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Tant que la France ne mettra pas une politique qu'on appelle Nord-Sud, tant qu'elle ne se préoccupe pas davantage des travailleurs immigrés ou des anciennes colonies, la politique française ne m'intéresse pas du tout. Qu'on coupe des têtes ou pas à des hommes blancs, ça ne me trace pas énormément.
Quelle est la société qui vous écœure le moins?
Là, je ne peux pas vous répondre politiquement. Mais presque religieusement, le mal comme le bien font partie de la nature humaine et s'expriment à travers les hommes ou les sociétés. Je ne condamne pas. Je ne sais pas ce qui va sortir des anciens empires coloniaux. Je ne sais pas ce qu'ils auront apporté de bien. Je sais ce qu'ils ont apporté de mal. Peut-être qu'ils ont apporté du bien aussi. Mais tout ça est si inextricablement mêlé que je ne serai jamais satisfait par un système politique, quel qu'il soit. Faire une démocratie dans le pays qui était autrefois nommé métropole, c'est finalement faire encore une démocratie contre les pays noirs ou arabes ou enfin hors d'Europe. Je connais mal l'histoire anglaise, mais je crois que depuis longtemps la démocratie était florissante en Angleterre quand l'empire colonial anglais était florissant. Et cette démocratie s'exerçait d'autant mieux qu'elle s'exerçait contre les hindous, oui, etc. Quand j'ai quitté Maitrey, j'étais envoyé en Syrie. Et le grand homme en Syrie, c'était le général Gouraud. Celui qui n'avait qu'un bras, le manchot. Il avait fait bombarder Damas. Et comme j'apprenais un peu d'arabe, je sortais du quartier à 6 heures. Je sortais du quartier à 4 heures, exactement, pour rentrer alors que je voulais. Et les petits gars de Damas prenaient un grand plaisir à me promener dans les ruines qu'avaient faites les canons du général Gouraud. Donc, je savais déjà une double vision du héros et de la saloperie, du type dégueulasse qui était finalement Gouraud. Et je me suis senti tout à coup, tout à fait du côté des Syriens. D'abord, ça a été probablement un sentiment plus ou moins retors pour me faire bien voir d'eux, pour être aimé, pour faire partie des jeux de cartes. Vous savez qu'on allait jouer aux cartes, puisque les jeux de cartes étaient interdits par le gouvernement français, donc par moi, puisque j'étais soldat à l'époque, on allait jouer, j'allais jouer avec eux, vous savez où? Dans les petites mosquées, jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Alors, pour me faire bien voir par eux, je disais du mal de Gouraud. Mais peu à peu, je comprenais que Gouraud, et ce qu'il avait représenté, était un salico. Je crois que, finalement, toute ma vie a été contre les règles blanches. Je veux dire que maintenant, encore maintenant, j'ai 72 ans. Hein. Et encore maintenant, je ne peux pas être électeur. Même si vous pensez que ça a peu d'importance, je ne fais pas partie des citoyens français. Il y a des délits que j'ai commis qui n'ont jamais été amnistiés. Dont un pour vol et une condamnation à 2 ans de prison, entre autres. Et toutes mes condamnations pour désertion, puisque j'ai déserté deux fois.
Bon, racontez-nous ce qui se passait devant le palais de justice le 16 juin 40.
Je venais de purger, parce qu'il faut utiliser votre langage, de purger 8 mois de prison pour vol. Et j'allais le 16 juin au palais de justice pour comparaître devant la cour d'appel qui, elle, a fait défaut. Je suppose qu'elle a siégé à Bordeaux le lendemain ou le surlendemain, mais elle n'était pas là quand je suis venu. Donc je me trouvais devant le palais de justice, ou plus exactement, vers la préfecture de police, où j'ai vu un officier français se déshabiller, quitter ses vêtements, son uniforme, et enfiler un vêtement civil pour mieux se camoufler. La défaite de 1940, je vous assure que c'était très comique. Ces messieurs décorés qui avaient une canne et au bout de la canne une pointe pour ramasser les mégots sans se baisser. Les dames d'Auteuil ou de Passy, je ne sais pas, qui vendaient des journaux, je crois, par le soir à l'époque où. Le Figaro. Il y a plein de choses comme ça, très réjouissantes. Hein. Vous pensez peut-être au soldat allemand, vous pensez peut-être à Hitler qui a fichu une raclée aux Français. Eh bien, oui, j'ai été heureux. J'ai été heureux de cette raclée. Oui, les Français ont été lâches. Et ça me fait plaisir.
Ça vous fait plaisir que les Français étaient lâches et qu'ils en aient été corrigés en 40?
Les deux. Les deux. En effet, c'est un petit caporal prussien ou autrichien qui en est venu à bout. Mais enfin, c'était marrant sur le coup.
Marrant.
Ah oui. Ah, je vous assure.
Ce que faisaient les Allemands, les camps de concentration, par exemple, c'était marrant aussi?
D'abord, je ne le savais pas, mais il s'agit de la France. Il ne s'agit pas du peuple allemand ou du peuple juif ou des peuples communistes qui pouvaient être massacrés par Hitler. Il s'agissait de la correction donnée par l'armée allemande à l'armée française.
Et ça, ça vous a paru marrant?
Oh, grisant, je vous assure.